J'accueille aujourd'hui de Marc Composieux et Alexis Gorbatchevski de la compagnie 11h11, puisque depuis hier et jusqu'au 14 janvier, ils donnent des représentations au Théâtre du Grand Rond d'un spectacle d'après Alexandre Vialat. L'homme est le seul animal qui porte des bretelles, c'est ce qui le distingue nettement du bois. Et on apprendra d'ailleurs au cours du spectacle que ça le distingue également du chien, de l'éléphant, etc. Alexandre Vialat, si ce nom ne vous dit rien, ou si ce nom vous dit quelque chose, mais quoi, eh bien c'est normal, puisqu'il se présentait lui-même, et vous-même vous le présentez ainsi, comme un écrivain notoirement méconnu, une sorte de Jacques Tati du Verbe, qui fut une source d'inspiration pour Pierre Desproges. Alexis Gorbatchevski et Marc Composieux puisent dans son œuvre protéiforme, dont on ne connaît principalement que les 900 chroniques qu'il livrait tous les dimanches soirs au journal La Montagne, puisqu'il était auvergnat. Donc il puise dans cette œuvre pour évoquer ou même convoquer ce personnage. Alors pour cela, il s'accompagne d'un bestiaire assez hétéroclite. Ça va du chien et chat empaillé au kangourou, à l'ours et au loup et même quelques autres encore qui eux sont bien vivants. Il mêle texte et images, images poétiques, ludiques ou alors même portraits intimes. Et puis donc ce principe texte-image, ben ça nous rappelle leur précédent spectacle, un spectacle qui donne le nom à la compagnie 11h11, un spectacle autour de Pierre Desproges le 11 novembre 2011 à 11h11, un spectacle qui tourne encore. Alors je vous laisse la parole, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue sur ce plateau. Donc hier soir c'était la première d'un spectacle qui n'avait même pas eu de général, la toute première. Comment ça va aujourd'hui?
Ça va. Soulagé?
Bah oui, bien sûr, j'imagine. Heureux d'avoir, ça y est,
oui,
d'avoir concrétisé.
D'avoir éprouvé la chose, oui. Très content.
Donc, grosse confiance quand même du Théâtre du Grand Rond.
Oui, on peut, oui, et on l'apprécie.
Oui, énorme confiance, puisque donc, voilà, y avait une vraie prise de risque.
Ils n'ont rien vu de ce spectacle.
Ils n'avaient absolument rien vu, donc c'est une vraie prise de risque de leur part. Ils ont énormément soutenu le précédent spectacle, donc sur Pierre Desproges. Et voilà, et du coup, ils nous ont donné une carte blanche pour réaliser celui-ci. Et on a même, du coup, je le précisais hier soir, parce que pour nous c'est très très important, vu que la compagnie est toute neuve, on a même une coproduction qui nous unit, et donc on peut dire qu'ils ont carrément activement participé à la réalisation de ce spectacle.
Ouais.
Voilà.
Alors, de Desproges à Vialat, si on a bien compris, il n'y a qu'un pas. C'est en travaillant sur l'œuvre de Pierre Desproges que vous avez rencontré Alexandre Vialat?
Oui, en fait, c'est là qu'on a découvert qu'il y avait une filiation. Que donc Pierre Desproges admirait, entre autres, Alexandre Vialat. Et ce qu'on retrouve, du coup, même dans son style, dans sa façon de faire, c'est de l'ordre de la citation, c'est pas du plagiat. Il se sert de ce qu'il admire et il le retransforme un petit peu à sa sauce. Mais c'est, voilà, c'est dit et c'est assumé.
Du coup, cette idée-là d'adapter des textes de Vialat, vous l'avez eue en préparant, enfin en jouant le spectacle précédent, ou c'est venu un peu plus tard?
C'est venu un peu plus tard. Moi, ce qui me concerne, la rencontre avec Vialat, elle a eu lieu en lisant une biographie de Pierre Desproges, qui est écrite par Marie-Ange Guillaume, qui est d'ailleurs, je la trouve vraiment superbe, cette biographie. C'est un portrait, ça s'appelle Portrait d'ailleurs.
Ouais.
Très émouvant, très bien écrit, très drôle. Et elle cite régulièrement Vialat et elle dit à un moment donné, si vous êtes des Desprogiens, il faut aller voir Vialat parce que c'est quand même très très bon. Et voilà, mais du coup, ça a germé, ça a pris son temps. Entre temps, on a joué notre spectacle sur Pierre Desproges qui a bien fonctionné, qui fonctionne encore. Et donc, ça, pareil, c'était déjà bien. Et puis on s'est plus dans cet univers et on a eu l'envie de monter à l'étage au-dessus, quoi. D'aller voir l'inspirateur, ouais. Parce que c'est vraiment comme ça qu'il est décrit. C'est-à-dire que Pierre Desproges dit voilà, je suis tombé sur une chronique de Vialat et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et voilà, ce format, cette écriture, ce style, ce regard sur les choses, voilà. Et du coup, tout naturellement, on y est tombé. Puis après, il a suffi le temps, l'occasion, et puis on s'y est mis, quoi.
Alors, qu'est-ce que vous proposez à entendre dans ce spectacle? Puisque, alors, je l'ai dit en introduction, Alexandre Vialat a donné à peu près 800 et quelques chroniques au journal La Montagne. Il a aussi écrit, c'est aussi un romancier, même s'il a, oui, a écrit énormément d'ouvrages, trois romans.
Il en a publié deux.
Il en a publié deux.
Ouais, deux ont été publiés de son vivant. Il y en a un, je crois que c'est Les Fruits du Congo, c'est ça, pour lequel il a failli avoir le Goncourt, il n'est pas passé très très loin.
Ouais.
Mais on va dire que le succès n'a pas été là en tant que romancier.
Ouais.
Et il est vraiment devenu chroniqueur. Et il a, alors là, par contre, je suis incapable de vous dire le nombre de revues pour lesquelles il a chroniqué.
Oui, je ne sais pas si tu as une liste,
Alexis. Il y en a vraiment énormément. C'est énorme.
Oui, oui, il y a la Nouvelle Revue Française, le Spectacle du Monde, Télé 7 Jours, la Revue du Tiercé, Flamme et Fumée.
Ouais. Et Spectacle du Monde ou un truc comme ça, je l'ai cité, oui, déjà. Ouais.
Et aussi La Messagerie des Courriers Maritimes.
Ouais, c'est, rien que cette liste était assez évocatrice du personnage, quand même, oui, on peut dire.
Ouais.
Et du coup, vous le définiriez comment, ce personnage, cet auteur? Alors, on n'a pas tout dit d'ailleurs, c'est aussi un traducteur, c'est un germanophone, oui, et phile, on peut dire. En tout cas, il fait découvrir Kafka, il est le premier traducteur de Kafka en France.
Et ben déjà, ça nous situe un peu le personnage, Kafka, pour le coup. Enfin, parce que pareil, je trouve qu'il y a encore une filiation, Kafka-Vialat. Vialat, c'est, pour moi, c'est un hurluberlu. C'est vraiment... Après, je sais pas, voilà, Alexis vous donnera sa vision des choses. Il y a un regard distancié, on est aux frontières de l'absurde, en même temps il y a des choses profondes, métaphysiques, et, c'est très 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 étrange, très jubilatoire, c'est un pince sans rire, donc il peut sortir des énormités, mais à aucun moment vous le verrez sourire ou en tout cas faire jaillir ce rire dans l'écriture, c'est très très... moi j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup.
C'est un monsieur très sérieux et très fantaisiste, donc sous un dehors complètement austère, parce que à la base c'est vraiment des chroniques littéraires. Il fait de la digression, il a eu aussi une carte blanche, une grande liberté, et du coup il s'est mis donc à parler de tout ce dont il avait envie, et du coup voilà, ça devient une énumération de tout ce qu'on peut trouver plus ou moins sur la planète, comme si on était un nouvel arrivant fraîchement débarqué sur Terre, et du coup il nous explique avec un regard complètement neuf et personnel ce que nous avons, nous, en fait, sous les yeux, mais que nous ne savons pas voir.
Un révélateur, en quelque sorte. Alors tu m'as conseillé une interview de lui dans les archives INA que j'ai pu enregistrer, donc du coup on va écouter la voix de Vialat, et qui va parler de ses influences. Bon, on va voir, c'est assez surprenant en termes de littérature, on écoute.
Bon, bien que nous ne soyons pas à lecture pour tous, je voudrais quand même essayer de conserver à cette émission son caractère littéraire. Alors, je crois que nous devrions parler de certaines des sources de l'œuvre d'Alexandre Vialat, à savoir le fameux catalogue Manu France.
Oui, le catalogue Manu France, parce que c'est une chose, c'est un ramassis de choses grandes et magnifiques, comme le piège à tigre inoxydable et peint en verre, ouais, avec la clé numéro 3500. 43 bis qui permet de le remonter sans effort, ce qui permet de prendre dans sa journée 20, 21 tigres, 22 sans se fatiguer davantage.
Merveilleux.
C'était pour un... Il y a le chalet pour fouine avec trois pièces, il y a le dortoir, la salle à manger, le salon. Il y a une des plus belles choses, c'est la canne pour voyageurs en liquide, qui permet d'absorber discrètement le contenu de son verre et de le recracher dans la rainure du plancher. Parce que ce sont des gens très polis, ils font remarquer qu'il ne faut pas revider, il ne faut pas vider le liquide qu'absorbait la canne n'importe où, mais de préférence dans une rainure du plancher. Ah oui, oh, il y a une foule de choses magnifiques.
Donnez soif.
Il y a le paletot pour chien. Le paletot pour chien avec poche-poitrine et col officier.
Oh là.
La botte pour chien à trois boutons. Et la même pour 25 centimes de moins.
Et le chapeau
deux boutons pour Basset.
Le chapeau pour chasseur ou pêcheur, là, avec les feuilles, là, qu'est-ce que c'est?
Ah, il y a toutes sortes de chapeaux. Qui sont conçus pour le confort de l'explorateur. Parce que le catalogue de la manufacture de Saint-Étienne vise deux clients, l'explorateur et le bureaucrate. Alors, il y a 6 pages d'essuie-plumes et 6 pages de casques coloniaux, de chapeaux melons à trépieds qu'on pose sur sa tête. Au-dessus de la tête pour faire des courants d'air. Ils sont obsédés par la question des courants d'air qui rafraîchissent le crâne. Ils ont des clients chauds qu'il faut refroidir un peu.
Et si nous parlions de Dickens maintenant?
Nous pouvons parler de tout.
Oui, mais je crois que vous avez des rapports précis avec Dickens.
Ah, Dickens, j'ai préfacé son Pickwick dans le livre de poche. Et puis Dickens m'a toujours beaucoup amusé, notamment M. Micawber. M. Micawber qui parle avec David Copperfield qui a 10 ans, comme si c'était la sagesse incarnée, comme si c'était un vieillard considérable dont on demande l'avis. C'est surtout Mme Micawber qui lui demande son avis. Et le petit David répond toujours « Oui, madame, oui, madame, oui, madame. » Et Mme Micawber en conclut qu'il lui donne des conseils très importants. Alors, oui, c'est son oracle.
Vous avez parlé à propos de Dickens, là j'ai là le livre de poche avec votre préface. Vous dites que le paradis par l'innocence, telle est la leçon de M. Pickwick.
Oui. Oui, je le pense aussi.
Et vous parlez aussi du paradis par la jovialité.
Le paradis par la jovialité, c'est tout à fait Pickwick.
Et la
jovialité par le punch.
Par le punch.
Alors ça, c'est la particularité de ce moraliste qu'est Dickens. C'est dans le punch qu'il trouve les sources de la vertu. Et la jovialité par le punch n'est pas une leçon tellement basse. Il y faut quelque stoïcisme. J'aime assez ce héros de Dickens qui cherche un pays bien sinistre, où il y ait un certain mérite à se montrer réellement jovial. J'aime assez qu'on enseigne aux hommes qu'en face des grandes difficultés, il n'y a plus de plaisir et d'honneur à manger une belle tranche de jambon de Westphalie arrosée d'un demi de bière bien fraîche qu'à se perdre en gémissements aigus. C'est le bon sens même.
Voilà, c'est le bon sens même. Alors, voilà un personnage qui s'intéresse à tout, qui aime la littérature, qui aime la grammaire par-dessus tout. Comment, alors, dans ces chroniques, on comprend, grâce à vous, hein, parce que moi, je ne les ai pas vues, les chroniques, mais je me rends compte donc, d'un personnage qui va démystifier des théories scientifiques, qui va s'attaquer à la définition des dictionnaires, donc du Larousse, qui va faire jeu de tout ce qui est trop sérieux. Et alors, on a l'impression, quand on voit le spectacle, d'un puits sans fond, d'un trésor, enfin, d'une caverne où on pourrait ouvrir des coffres à foison, sans limite. Comment, alors moi, ma première question, c'est comment vous avez arrêté un choix de texte ? Parce qu'il fallait bien arrêter un choix de texte dans cette foison, parmi cette...
Ah oui, ça c'était problématique, parce que on a principalement travaillé donc, sur les chroniques de la montagne, donc 898.
Vous les avez toutes consultées ?
Oui.
Oui, d'accord. Ok.
Oui, et puis c'est dense en plus. Les chroniques sont denses. Hein. Oui, ça c'est le problème, la sélection des textes. Parce que c'est des chroniques, parce que le format, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, parce qu'il y a plein de choses qui nous plaisent. Donc on a fait une présélection, une pré-sélection,
ouais,
puis chaque fois on enlevait un pré. Et puis on a fini par garder ce noyau dur là. Mais effectivement, c'est pas le plus facile de choisir. Hein. C'est pas le plus facile.
Non, parce que tout est possible et tout est souhaitable en fait. C'est même douloureux de devoir choisir.
Et alors, est-ce que ces choix... Alors, bon, dans ces choix, on a la présence, donc, beaucoup de nombreuses définitions, notamment de définitions d'animaux. Et puis après, on a des théories scientifiques un peu qui émergent comme ça. Et puis des moments descriptifs de la nature humaine, comme un peu des enquêtes sociologiques de l'homme. Alors, est-ce que ces choix-là, c'est parce que c'est vraiment des obsessions de Vialat ou c'est aussi parce que c'est quelque chose qui vous êtes dit, ça peut être chouette à jouer?
Les deux. Déjà parce qu'il y revient souvent à l'homme et que moi, mine de rien, c'est quand même une des choses qui m'intéresse le plus sur cette planète. Donc, j'aime bien la manière dont il y revient, dans la manière dont il construit ses chroniques aussi. Il arrive vraiment à des considérations sur l'homme au détour d'une phrase. On part de très très loin et souvent on arrive sur l'homme. Il le regarde de biais, il le regarde de très haut, il le regarde de très bas, il le regarde... Voilà, d'où même le titre de ce spectacle en fait qui peut paraître complètement anodin. En fait voilà, si vous ne savez pas ce que c'est que l'homme, vous cherchez les bretelles. Et là vous êtes sûr que derrière les bretelles il y a un homme. c'est ce regard tout neuf sur les choses, tout... et qui en même temps démystifie plein de choses. Voilà, on ne part pas dans des considérations, des choses a priori comme ça très intelligentes. Il dit non, vous cherchez les bretelles et vous aurez trouvé un homme. C'est sûr, parce que le bois n'a pas de bretelles. Voilà, donc déjà, oui, effectivement, lui, c'est un de ses thèmes de prédilection. Et puis nous aussi, voilà, nous aussi, clairement, c'est quelque chose qui nous parle. Enfin, je pense. Hein.
Oui. Et puis aussi, du coup, lui travaillait vraiment sur les écrits. Et donc sa description se fait aussi à partir de ce que les autres ont écrit sur l'homme, sur les animaux, et il le ressort en fait, il le retransforme, il en donne vraiment tout un sel, enfin, il en fait quelque chose de très savoureux justement, le Larousse, les définitions du Larousse, qui telles quelles sont complètement incroyables.
Ouais.
Et il va s'embarquer dans des brèches. Notamment, il y a un texte que dit Alexis. Je trouve que l'idée est complètement géniale. La description du guépard, et au détour de la description du guépard, Monsieur Larousse dit « La seule connue est le guépard à crinière. » Et là, Vialat, frein à main, il s'arrête là-dessus. « La seule connue. » D'accord. Comment sont faites les autres? Et c'est parti. Et il va attraper la brèche et il va... Et voilà. Et là, tout est possible. C'est-à-dire, il vous ouvre un monde auquel vous n'avez... Alors que, moi le premier, je serais passé sur la définition. J'aurais pas spécialement vu l'endroit, là. Oui. Et puis lui, évidemment, c'est tout un monde qui s'ouvre à lui. Alors ça le roule dans des abîmes de réflexion. La seule connue, mais alors les autres... Pourquoi?
Comment avoir la préscience de...
Voilà,
de
et alors du coup, qui est ce monsieur Larousse pour décider que celle-là, c'est la plus connue que les autres? Et puis il va finir carrément par nous dire, c'est lui qui les a inventés, c'est sûr. Ça c'est vraiment typiquement Vialat, quoi.
Ce serait une forme de lanceur d'alerte littéraire.
C'est ça.
Puisque du coup, il nous fait nous arrêter sur des choses, des évidences ou des choses qu'on pense être immuables. Et puis notamment, alors... On sent quand même une certaine un regard quand même sur les hommes un peu désabusés, alors peut-être pas forcément misanthrope, mais on le sent un peu en retrait du monde. Et je me suis demandé si c'était pour ça qu'il y avait autant de définitions d'animaux dans ses écrits. Je sais pas, qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup d'enseignements peut-être à tirer de l'observation des animaux. Je me suis demandé parce qu'il y a quand même énormément. Alors est-ce que dans ces chroniques, c'est vrai qu'on peut dire qu'ils reviennent vraiment souvent ces animaux?
C'était parti au départ. On a donc la CAF Poésie nous avait invité donc à faire une lecture du bestiaire d'Alexandre Vialat en juin. Ce qui nous a aussi conforté dans notre envie de faire vraiment un spectacle sur cet auteur. Et plus que du coup des descriptions d'animaux, en fait, il décrit les descriptions que les hommes font des animaux.
Oui, j'aurais dû préciser ça, en fait. Et puis l'animal est interprété donc par Marc exclusivement à l'aide de petits accessoires qui le caractérisent.
Pas toujours. Il y en a un que nous faisons tous les deux.
Oui, c'est vrai.
Je ne dévoilerai
pas.
C'est vrai,
non, faut pas trop en parler, non.
Il y en a un que nous faisons à deux. C'est un gros morceau, celui-là, donc voilà.
Et d'ailleurs, c'est des moments vraiment réjouissants pour le spectateur. J'ai l'impression que quand on s'attache au travail d'un auteur comme Alexandre Vialat, on peut pas le faire avec trop de sérieux quand même. Il faut lui donner beaucoup d'importance, mais pas se prendre au sérieux.
Mais je crois qu'il a lui cette fantaisie. On l'entend d'ailleurs quand il parle du catalogue Manu France dans une émission littéraire. Enfin, c'est quand même Il y va, quoi. Je crois qu'il a cette fantaisie, il a cet humour, cette pirouette. Mais je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il est en même temps... Il y a un regard assez désabusé sur l'homme, ouais, clairement. Je sais pas. Je trouve qu'il y a aussi un parallèle à faire avec Pierre Desproges. Qu'on régulièrement taxait de méchant ou de dur ou de cynique ou de cinglant et qui était profondément humain et qui était passionné par l'homme. Et dans son roman « Des femmes qui tombent », donc le seul roman de Pierre Desproges, il y a une phrase où il décrit un de ses personnages et il dit, comme tous les faux à propos de son personnage, « comme tous les faux misanthropes, il aimait trop ses congénères pour les tolérer médiocres ». Et je crois que voilà, elle est là la frontière. Ouais. C'est, plus on aime les gens, c'est comme dans la vraie vie, plus on aime les gens et moins on leur passe leur petite faiblesse ou leur petite lâcheté ou leur petit voilà. Et je crois que chez Vialat il y a ça aussi. Il aime profondément les gens. On a des correspondances de lui, on a des choses. Ses amitiés sont énormes. Les amitiés avec des Auvergnats notamment, les frères Pourra, tout ça, c'est des amitiés. Très belle, enfin je trouve vraiment très belle, très virile,
Vous lisez sur scène un extrait de sa correspondance et la façon dont il s'adresse à son ami, on se dit mais quelle chose précieuse au monde d'avoir été l'ami d'Alexandre
Vialat. Il lui a écrit une, voire plusieurs lettres, mais en tout cas minimum une lettre par semaine pendant 20 ans, plus de 20 ans. Elle avait sa lettre, il l'appelait la lettre du lundi matin. Elle avait tous les lundis matin, elle avait sa lettre, Ferny
comme
Besson.
Comme la chronique du dimanche soir, voilà, elle avait la lettre du lundi matin.
C'est ça, exactement. Et non, voilà, bref, tout ça pour dire que oui.
Et oui, donc
il y a tout ça.
Il y a
tout
ça. Il y a une certaine. Bon, le spectacle démarre avec une certaine légèreté, et puis on va quand même passer à des choses un peu plus graves, puisqu'il y a des moments aussi où on évoque le génocide juif. Et puis après, le personnage aussi se dessine avec sa correspondance. On va rentrer un peu plus dans l'intime. Et puis, il y a bien entendu une grande part consacrée du spectacle qui donne à entendre le texte de Vialat. Et puis, alors, il y a quelque chose qui, là, j'ai l'impression, commence à vous caractériser en deux spectacles à tous les deux. Là, c'est un univers que vous posez, un univers aussi d'images, qui aide aussi à peut-être mieux entendre les textes, hein, que vous aviez déjà pour faire une proposition visuelle autour du spectacle de Desproges. Et là, j'ai l'impression que vraiment, c'est encore plus assumé, ce côté visuel, un côté dansé. Donc du coup, Alexis me racontait hier que vous aviez eu un regard extérieur d'une chorégraphe. Bon, ça m'a pas du tout surprise. Alors, faut dire que bon, voilà, le spectacle commence par exemple avec l'ascension d'une table par Alexis. Je pense que on pourrait, en le filmant, en le passant en noir et blanc et en travaillant le grain comme si c'était un film des années 20, ça pourrait passer pour du burlesque, du Buster Keaton, du Norman McLaren. Alors, est-ce que c'est des références assumées? Est-ce que vous avez pensé à ça quand vous avez construit cette scénographie?
En tout cas, il y a une chose, c'est que lui citait Tati, lui citait Chaplin, et du coup, lui aussi, en fait, se retrouve à être cité avec eux.
Oui, d'accord. D'accord, donc il y a vraiment une rencontre entre votre univers et le sien. Ouais.
Bah oui, enfin, c'est des choses... enfin, moi j'aime bien quand on est ému des mêmes choses. Je trouve que c'est ce qui nous fait vibrer ensemble, quoi. Et effectivement, quand au détour d'un texte, Vialat cite le dernier film de Tati qui vient de sortir, et il dit faut y aller parce que c'est vraiment bien. Et justement, quand il le dit avec cette sobriété-là, moi je sais qu'à l'époque j'aurais lu cette chronique dans la montagne le mardi. Je pense que le lendemain j'étais au cinéma et j'allais voir le dernier Tati. Ouais. C'est évident parce que il dit rien à dire, c'est juste bien, faut y aller.
Il y avait une très belle phrase en fait, je sais plus si elle est peut-être de Jean Dutour ou de Ferny Besson, qui disait qu'il y a un monde signé Tati, un monde signé Chaplin, et il y a un monde signé Vialat.
Ouais, il y a vraiment une proximité entre ces gens-là. Pareil, ouais. Son regard sur le monde, son regard sur l'homme. Pareil, hein, Charlie Chaplin, on rit des malheurs de ce clochard, de ce personnage-là. C'est drôle, ça l'est pas.
Effectivement, il a un regard similaire, je pense, à celui qu'avait Tati sur son monde, sur le monde du progrès. Mmh. Et d'ailleurs, c'est très étonnant qu'en lisant Vialat, on retrouve des choses tout à fait semblables.
Mmh. Oui, carrément, complètement. Comme la chronique sur la société de consommation, sur le tuyau. Donc la condition de l'homme, l'homme est malheureux,
ouais.
Et l'homme, est-ce qu'il lui faudrait pour être vraiment très 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 heureux, une fois qu'il a vraiment tout réussi, le bonheur ultime, ce serait parce qu'il rentre tous les soirs à la même heure, du même travail, au bout de la même journée monotone, il lui faudrait du caoutchouc vert pour arroser sa pelouse, et ça illuminerait complètement sa vie, et du coup la société de consommation s'est engouffrée là-dedans, et maintenant on peut trouver du caoutchouc jaune, du rose, du bleu, du mauve, et c'est voilà, on sent bien la critique, c'est playtime quoi, c'est Tati, on y est, on est à fond quoi, vraiment, voilà.
C'est cette époque-là aussi.
Oui, en plus.
C'est ces regards-là de ces personnes-là du coup qui nous donnent ces choses à observer.
Oui, en plus dans le temps, il y a une proximité clairement quoi.
Et vous avez imaginé un volet 2 avec d'autres textes de Vialat ou c'est pas à l'ordre du jour? Est-ce que
la première a eu lieu hier soir? Hier soir, c'était la première. Non, enfin moi on en a pas parlé, mais pourquoi pas? Enfin dans l'absolu, pourquoi pas? En tout cas, il vient de vous parler de l'univers, clairement il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire.
C'est pour ça que quand je posais cette question, parce que je me disais, mais comment on est passé à côté de ce personnage autant d'années? En fait, je ne sais pas, des pièces de théâtre autour de Vialat, vous en avez vu avant de créer la vôtre?
Non, jamais.
Non.
On sait qu'il y en a quelques-unes qui ont tourné.
Il y a des lectures de textes qui ont eu lieu à Paris par Dominique Pinon, je crois. des textes de Vialat. Mais non, il y a assez peu de choses qui ont été faites. Mais il se définissait lui-même comme notoirement méconnu, et je crois qu'il a réussi son coup. Hein. alors, pour plein de raisons. Déjà parce que le format de la chronique, donc voilà, c'est pas, entre guillemets, prestigieux. Donc peut-être, donc ça l'a aidé à être notoirement méconnu. Je sais pas pourquoi. C'était Alexis disait l'autre jour, c'est un écrivain pour les écrivains, un écrivain pour écrivains. Je pense que les écrivains le connaissent tous, je pense. Mais je pense qu'effectivement, dans le grand public, il est passé relativement inaperçu. Mais tant mieux. Enfin voilà, nous en tout cas, nous, enfin moi, pour parler de moi, clairement, je l'ai attrapé par le biais de Pierre Desproges, et je suis très content d'avoir eu cette passerelle là pour atteindre Monsieur Vialat. Et l'essentiel, c'est voilà, l'essentiel, c'est qu'on puisse le dire, qu'on puisse le faire encore aujourd'hui. On est en relation avec son fils, qui est un monsieur de 85 ans que j'ai au téléphone régulièrement et qui est hyper enthousiaste, et qui est ravi. J'ai senti une vraie surprise. Mais vous appelez d'où? J'ai dit, bah, Toulouse. Et pourquoi vous voulez dire des textes de mon père? J'ai dit, bah oui. Mais si je peux vous aider, mais je vais vous aider. Demandez-moi, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire. Il était surpris, content, ému, je pense. Enfin, il est très 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 content. Mais allez-y, faites entendre ça quoi. Cette écrière-là, ces textes-là. Ouais. Il y a tout un folklore qui aujourd'hui nous parle plus. On est à l'ère du mail, du téléphone portable et voilà. Ce type, Monsieur Vialat, livrait sa chronique tous les dimanches soirs. Il allait déposer à la gare, au train postal, il fallait qu'il y soit à 23h15. Et il a même raté, une fois, il a raté son train. Il était obligé de se faire emmener en voiture jusqu'à Clermont-Ferrand. Donc, c'était très ritualisé, tout ça. C'était tous les dimanches, c'était l'écriture pour le journal La Montagne. Et tout ça, et son fils me dit, c'est ça qui a fait l'œuvre. C'est de la contrainte est née l'œuvre. Pareil, je sais pas pourquoi, comment vous dire ça, mais moi, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec l'époque qu'on vit, ça m'ouvre tout un univers. Je suis ailleurs, quoi. Ça me touche, c'est vraiment l'histoire d'une vie. C'est vraiment toute une vie avec des rythmes bien précis et des chroniques. Voilà. Et puis on découvre.
C'est un personnage de roman, je trouve.
C'est incroyable.
Moi, ça m'évoque Simenon.
Alors voilà, je suis fan de Simenon. Donc voilà, pareil, il n'y a peut-être pas de hasard. Je suis fan de Simenon. Donc, c'est chronique, ce tempo de la chronique. On découvre de la correspondance, pareil. On pourrait se dire, allez, il lui écrit 3 lettres par mois. Mais non, c'est 3 par semaine. Et la tenue de ses lettres, mais c'est absolument sublime. La petite phrase de clôture de chaque lettre. Cher Ferny, je vous embrasse le bout des doigts. Je suis votre petit serviteur. Mon sort est en équilibre sur votre index. Ne bougez rien, ne cassez rien. C'est absolument sublime. Et c'est tous les 3 jours, quoi. C'est une espèce de production comme ça que je trouve complètement sublime. Bref,
pour la beauté du geste, ouais. Parce que c'était des correspondances intimes.
C'est
quoi.
Vraiment
c'était pas, c'était
l'écriture, pas c'est vraiment son quotidien, c'est vraiment sa vie, quoi. C'est une vie remplie d'écriture. Ça déborde d'écriture. Et je trouve tout absolument sublime. Donc,
Oui, il était lui-même un poème. Il était lui-même, aurait très bien fait l'objet du récit d'une de ses chroniques.
Ouais. Bon, alors si vous voulez en voir un peu plus, ben, je pense que c'est sûr qu'en écoutant mes invités, vous n'aurez qu'une envie, c'est d'aller au Théâtre du Grand Rond pour découvrir ce spectacle. Donc, je rappelle, l'homme est le seul animal qui porte des bretelles.
Oui.
C'est donc tous les soirs relâche lundi et dimanche et lundi, on va commencer comme ça, mais tous les soirs au Théâtre du Grand Rond jusqu'au 14 janvier à 21h. Un téléphone pour réserver 05 61 62 14 85. Mes invités Marc Composieux et Alexis Gorbatchevski en sont donc les metteurs en scène, acteurs. Danseurs,
voilà,
mimes,
tant qu'à faire.
Et même il se transforme de temps en temps en animal. Voilà, c'est donc tous les soirs au Théâtre du Grand Rond. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci
pour cette création, merci pour ce plaisir de théâtre que donc j'ai pu partager hier soir avec avec des complices que j'ai amené avec moi et qui ont les réactions étaient, enfin tout le monde était enchanté. de cette soirée, donc c'est mon conseil, vous l'aurez compris. Suite du magazine Suite et Fin peut-être.
Je crois que tu nous avais sélectionné un petit morceau de, de musique classique. C'est pas si courant qu'on ait du musique classique dans le magazine d'Entre Midi et Deux sur Canal Sud.
C'est
alors
vrai.
Bon là t'as pas pris trop de risques, hein, tu nous as sorti un tube.
Alors c'est eux, alors j'ai oublié de le préciser, mais c'est vrai que le spectacle commence avec quelques morceaux comme ça très très repérés de la musique classique et on se demande si on est bien sûr si on est passé sur France sur comment ça s'appelle
France Musique
ou la radio classique plutôt
radio classique
qui envoie des tubes et on a choisi le Beau Danube et bon quand je t'ai parlé de cette sélection je t'ai dit mais moi quand j'ai écouté cette pendant le spectacle à un moment donné il y a une scène comme ça jouée muette avec le Beau Danube bleu et moi j'ai tout de suite pensé à 2001 Odyssée de l'espace et Alexis m'a dit c'est normal.
Oui.
Vous aussi, vous y avez
nous aussi,
pensé.
Nous aussi.
Donc là, c'est sans lien avec Alexandre Vialat. Il ne l'avait pas vu.
Ou alors, non. On n'a pas encore trouvé le lien. Peut-être qu'il y est, mais qu'on ne l'a pas trouvé.
Si, quelque part, il y est, parce que, il replace l'homme vraiment dans l'univers, dans l'espace. Et qu'est-ce que l'homme, si ce n'est quelqu'un qui habite sur une planète où il peut regarder tourner des Spoutniks avec des chiens morts?
Ah oui, c'est ça, exact.
Ah bon, voilà. C'est un très beau mot de la fin, Alexis, je te remercie. Et on écoute le Beau Danube.